cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 12 janvier 95.
Nous avons vu depuis le début de l'année et l'année dernière, puisque ce cours se fait sur 2 ans, comment la philosophie du vivant se distingue de la philosophie de la nature, c'est-à-dire de la matière. Puisque l'originalité de la philosophie de la nature, c'est la matière. L'originalité de la philosophie du vivant, c'est de découvrir la source de la vie en nous. Et c'est ça qu'il faut bien se comprendre. C'est que la philosophie du vivant, c'est la philosophie de l'homme vivant, en tant que vivant. Et donc de moi, en tant que vivant. Parce que je n'ai l'expérience de la vie que de ma vie. Je n'ai pas l'expérience directe de la vie. Mais j'ai l'expérience directe de ma vie. Ce qui est un privilège unique. Je parle. J'ai l'expérience que je parle. Quand j'entends parler, je projette sur celui qui parle ma propre manière de parler. Quand j'entends un chien aboyer, je ne dis pas que j'aboie, mais je sais que c'est sa manière pour lui de manifester ou sa joie ou sa fureur. Sa concupiscence, ou au contraire sa colère. Parce que je n'ai pas le même langage. Si je me mets à aboyer, c'est une imitation. Je ne le fais pas spontanément. Ouais, normalement. Parce qu'on sait que si un petit enfant est emmené par une louve, il aboiera comme une louve, si on le laisse là quelques années. C'est très curieux, mais il y a un livre qui est apparu, oui, déjà assez longtemps de ça, dans une perspective très particulière, vous montrez qu'il n'y a pas d'âme, ça prouve absolument rien du tout. Mais c'est amusant par rapport à ce qu'il rapporte comme faits, qui, je crois, sont justes. Ce qui est tout à fait particulier à la philosophie du vivant, c'est que j'ai une expérience du vivant. Vous voyez, je prends toujours ce fait parce que c'est important pour nous. Comme j'ai expérimenté moi-même, c'était au foyer de charité de Poissy. On avait demandé à un professeur de biologie, professeur à l'université de médecine de Paris, que je connais bien, qui est un ami. À ce moment-là, je ne le connaissais pas. C'est comme ça qu'on s'est connus. On lui avait demandé d'exposer la politique de la vie comme ce que la science biologique peut nous dire de la vie. C'était extrêmement intéressant. Conférence de 3 heures. Mais extrêmement intéressant, la politique de la vie. Je lui ai demandé sa conférence après, il me l'a toujours promise, mais il ne l'a pas encore donné. Je le talonne, parce que j'essaie de le voir tous les ans pour me dire les dernières découvertes biologiques faites. C'est intéressant. Cause matérielle, montrer logique ne nous fait connaître que la cause matérielle. Ne touche pas à l'âme. Alors, cette autre petite expérience, qui sont amusantes et intéressantes, c'était Jean Bernard, qui est quand même quelqu'un qui a été président de la bioéthique pendant plusieurs années à Paris. Qui a, du reste, c'était le premier président de la bioéthique. Il m'a raconté ce petit détail très amusant. Comme il est un grand savant connu, allant en vacances dans la maison de famille, l'instituteur du coin le supplie de venir donner des cours à ses enfants, à ses petits-enfants, je crois de 5 ans à 14 ans. Et il accepte, très heureux, en disant à ses petits-enfants, vous mettrez sur un papier vos questions, bien ce que vous désirez que je développe. Alors il m'a dit, j'ai reçu plusieurs papiers, mais entre autres, un petit papier d'une écriture extraordinairement appliquée. Ça devait être une petite fille de 10 ans. Monsieur le professeur, merci de tout ce que vous avez dit, mais vous ne nous avez pas parlé de l'âme. Cette petite fille qui allait au catéchisme, sûrement. Vous n'avez pas parlé de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Ça a beaucoup frappé. C'est très joli du reste. Hein. Ça a beaucoup frappé Jean Bernard, qui était très positiviste, mais qui aimait bien les Dominicains, puisque pendant la guerre, il est juif d'origine. Pendant la guerre, on l'avait reçu comme bibliothécaire. C'est tout juste si on l'avait pas donné un habit, pour éviter de... Un avis de miséricorde, voyez. Mais il était bibliothécaire, caché dans les bibliothèques. Et alors il se souvenait ça très bien, et c'est vrai. Il était plus jeune à ce moment-là, mais n'était pas encore celui qui était connu. Alors il m'a dit, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, il faut quand même lui répondre. Alors, j'ai répondu que le savant biologiste ne pouvait pas parler de l'âme. Il se contentait de décrire les phénomènes. Mais que l'âme existe. On a des témoins. Et là, il a écrit un livre. Qu'est-ce que l'âme? Demande Brigitte. C'est assez joli. Là, il termine en donnant le témoignage de tous les spirituels qui parlent de l'âme. Alors on voit très bien, le biologiste ne parle pas de philosophie, hein, mais tout de suite on passe du savant au mystique. En disant l'âme, c'est une réalité spirituelle que les mystiques, que les grands spirituels découvrent, mais que le biologiste, entre le biologiste et les spirituels, il y a le philosophe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la philosophie du vivant est coincée par la biologie et par la psychologie. C'est autre chose que la psychologie, autre chose que la biologie. Il y a une connaissance autre. Alors quand j'avais précisé que tout ce qui avait été dit sur la politique de la vie dépendait des recherches biologiques se servant de tel ou tel instrument, j'ai dit, pourquoi le philosophe ne se sert pas de ces instruments? Si c'est par fidélité à Aristote, c'est de la bêtise. Si c'est de la fidélité à Thomas d'Aquin, c'est de la bêtise. Pourquoi il ne se sert pas de cela? Parce qu'il veut saisir le jaillissement de la vie. Tandis que ce que disait quelqu'un d'une façon... façon un peu méchante, mais vraie. La biologie étudie la vie quand elle est morte. On analyse le sang. Hein ? Les analyses du sang, c'est très précieux. Et on vous donne, ouais, si vous êtes normaux ou pas normaux, on oublie que chaque vivant est anormal, n'est-ce pas ? Puisqu'il est unique. Il a un chiffre biologique unique. Donc l'équilibre et l'harmonie de chacun, mais on fait une norme. Et on vous dit pompeusement, vous manquez telle chose, vous manquez telle chose. Est-ce que c'est vrai que je manque de ça ? Bien, c'est mon équilibre. Évidemment, quand il manque beaucoup de choses, c'est dangereux, mais... Je comprends très bien qu'on peut donner comme ça une certaine norme. Mais ça, c'est typiquement la loi. Le philosophe ne se sert pas de cet instrument. Pourquoi ? Parce qu'il veut saisir la vie dans son jaillissement. Quand je parle, je suis conscient d'une opération vitale. Quand je marche, je suis conscient d'une opération vitale. Quand je mange, je suis conscient d'une opération vitale. Quand je pense, je suis conscient d'une opération vitale. J'ai toute la gamme. Ce que le biologiste n'a pas. Le biologiste regarde, la science biologique regarde un aspect. Je me souviens, encore une autre expérience, de cet Espagnol, ce grand Espagne, qui faisait son doctorat de sciences biologiques à Genève, et qui était venu me voir. Et il était venu juste le jour où j'enseignais au séminaire ce qu'Aristote dit sur l'âme, en montrant que je ne connais le corps que par l'âme, en tant que vivant, puisque l'âme est acte du corps, et le corps est en puissance l'âme. Et donc l'acuité du corps, l'intelligibilité du corps, se fait par l'âme, philosophiquement parlant. Alors il était complètement affolé à la fin du séminaire, il me dit, mais mon père, alors notre science biologique, qui ne voit absolument pas l'âme, elle ne saisit pas ce que c'est que le corps humain. J'ai dit, oui, et c'est ce qui explique de temps en temps des grosses bêtises que font les savants biologistes, parce qu'ils connaissent le corps de l'homme et le corps de l'animal. Et ils font les expériences, les petits cobayes. Et puis après, on passe à l'homme. Ils ont fait des bêtises énormes en pharmacie, en médecine pharmaceutique, quand on passe de l'un à l'autre. Et c'est vrai. Et ça arrive tout le temps. Alors, c'est vrai, on fait la science. Y a-t-il une science du corps ? Y a-t-il une philosophie du corps ? Il y a la philosophie de l'âme, et par l'âme du corps. Mais je ne peux pas étudier le corps en soi. Or, la science biologique veut étudier le corps en soi. C'est pour vous montrer tous les problèmes. C'est comme la psychologie qui veut être science. Elle n'est pas une science. Elle devrait s'éclairer par la philosophie. Et c'est toujours la cause matérielle. Or, je ne peux pas faire une science de la cause matérielle. Mais on devient terrible hein, dès qu'on regarde les choses au plan philosophique. Alors, on donne des lois. Ut in pluribus. La plupart du temps, c'est comme ça. La plupart du temps. Je ne peux pas dire plus. Puisque je sais que chaque vivant est unique. On a son chiffre biologique. Et on ne retrouve jamais le même chez les autres. l'enfance. C'est le même vivant. Et c'est tout à fait différent. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de saisir qu'il y a une unité vitale en moi. Depuis le corps jusqu'à les opérations spirituelles. C'est pas deux individus différents. Je ne peux pas mettre mon corps d'un côté, mon âme de l'autre. Pas du tout. Mon corps est un corps vivant par l'âme. Et c'est pour ça que mon corps vivant humain n'est pas le corps vivant du singe. C'est ce qu'on avait espéré à un moment donné. Au moment de l'évolutionnisme, au sommet, on avait espéré, j'ai lu ça dans des livres de l'époque, qu'on pourrait élever des singes très très parfaits, de l'espèce la plus parfaite, pour avoir du sang en réserve. On aurait du sang de singe. Et alors on aurait des réserves de sang de singe quand c'est besoin de faire des... de transmettre du sang à des malades. On a vu que c'était impossible. Je peux pas, le singe ne peut pas être donneur de sang pour l'homme. Vous ne pouvez pas puiser auprès du singe. On l'a cru à un moment donné. On avait espéré ça. Ça marche pas, ça colle pas. C'est très intéressant pour toute l'évolution. Le sang, selon les traditions bibliques, le sang et l'âme. C'est dit dans la Bible. Et donc le sang est le point de vue du corps le plus proche du point de vue spirituel. Et par le fait même, c'est ce qui distingue le mieux l'homme du singe. Au point de vue morphologique, il y a des distinctions. La main, et puis le cerveau, c'est beaucoup plus compliqué que le singe. Le singe est plus simple que nous. C'est plus élémentaire. Et donc l'aspect du corps, la matière, l'emporte. Il a une toute petite âme, embryonnaire. Qu'est-ce qu'elle est ? Difficile à savoir. Quelle est l'âme du singe ? Je peux encore savoir ce que c'est que son visage. Je peux encore savoir ce que représente un coup de patte du singe. Le singe ne rit pas. L'homme rit. Et c'est la première manifestation de son âme spirituelle. Le sourire de l'enfant. C'est pour ça que la mère l'aime tant. Parce que c'est un signe non évolué de l'âme et de la présence de l'âme. Et c'est universel. Il n'y a pas une langue particulière pour le sourire. Le langage, c'est le signe du vivant, mais déjà conventionnel. Tandis que le sourire, signe du vivant non conventionnel. Je sais bien qu'on peut avoir un rire forcé. On sait bien qu'il y a un sourire, ce qu'on raconte, ce qui est vrai du reste. Quand deux chauffeurs de taxi japonais se rencontrent... Puisqu'un enfant emporté par des louves ne souffre. soleil qui apparaît. Quelque chose d'étonnant. Puis alors, quand il parle, au début, il répète « Papa, maman, mamie », il répète. Et puis tout le monde est comme ça. Tout le monde est papa, tout le monde est maman. Puis au bout d'un certain temps, il arrive à discerner homme. L'expérience du bourgeon intellectuel qui fleurit. La complexité du vivant humain, c'est merveilleux. C'est l'être vivant le plus complexe qui existe. Là, les données scientifiques sont nettes. Et Teilhard reconnaît ça, c'est le grand principe. La complexité du vivant, la complexité du cerveau. À partir de cette complexité, il essaie de saisir par mode d'inférence l'induction. L'âme épouse l'âme. C'est la première chose que fait le philosophe. Comme il y a l'induction de la nature, il y a l'induction de l'âme. L'âme, je la saisis à un niveau d'intériorité. J'ai une certaine expérience de mon intériorité. Donc de mon âme. C'est toute la différence avec la substance. Je n'ai aucune expérience de la substance au niveau de l'être, tandis que j'ai une expérience de mon âme. J'ai une expérience que j'aime et j'aime mon âme. Et mon âme ne se sépare pas de mon corps. Je peux rêver de cette séparation. D'avoir une âme qui s'envole. C'est un rêve, un beau rêve. Et puis vous vous réveillez en prisonnier de votre corps. C'est moins drôle. Tandis que dans le rêve, vous pensez, votre âme s'envole. On peut induire, donc on a cette expérience amoureuse de l'âme. Et si vous ne vous aimez pas, vous n'avez aucune expérience de l'âme. L'âme se cache. Très curieuse. Elle ne se montre que si vous l'aimez. Et si vous vous aimez, vous avez une certaine expérience de l'âme. Et puis vous avez l'induction de l'âme, qui est une connaissance philosophique de mon âme. Parce que je n'induis pas l'âme de mon voisin. Et je n'induis pas l'âme des animaux. Mais je vois que les animaux peuvent avoir des gestes semblables aux miens. Le singe peut avoir des gestes semblables. Il peut se servir d'un bâton. Il peut se servir d'une échelle. Il peut se servir de pas mal de choses. Il peut manger des fruits. Et il arrive, c'était au Carmel de Sébicotane, au Sénégal. Les carmélites savaient que les petit troupeau de singes qui était là avait repéré l'heure où elle priait. Comme ça, ils étaient tranquilles et pouvaient faire récolte au potager. Et c'était toujours pendant le temps de la prière. C'est très curieux. Ils sont assez organisés, vous savez. Et ils s'aperçoivent vite. Il y a des moments où on voit pas d'homme, on voit pas de femme, on est tranquille. Puis dès que l'heure est terminée, on s'en va. Ils ont une certaine connaissance estimative, connaissance singulière des choses qui permet d'organiser, mais qui reste sensible. La connaissance de l'homme atteint l'universel. Et l'universel est le signe de l'intelligence, le signe de l'intelligence. L'amour d'amitié est le signe affectif d'une connaissance spirituelle. Et donc je vois qu'il y a en moi toute une série de connaissances multiples, et c'est toujours moi. Par là, j'induis l'âme, et l'âme induite comme source visibilité en ce sens que l'âme m'apparaît par les opérations vitales comme ayant différents degrés de vie. La vie végétative, la vie sensible, la vie spirituelle. Et j'étudie au plan philosophique ces trois vies. Et cette année-ci, nous avions étudié la vie spirituelle affective, la volonté. Et l'année dernière, c'était la connaissance. Et il faut bien reconnaître que c'est par la connaissance que nous pouvons distinguer différents degrés de vie. La vie instinctive, la vie sensible et la vie spirituelle. La vie spirituelle atteint l'universel. La vie sensible connaît les différentes sensibles, les différentes modalités de sensation, les cinq sens. Et la vie intellectuelle est universelle. C'est intéressant de noter ces différents degrés de vie. C'est très vieux sur les pythagoriciens qui les ont regardés en premier lieu, dans des fraternités religieuses. Puis Aristote distingue les différents degrés de vie. Et ces degrés de vie reposent sur l'expérience directe que nous avons de la vie. Et je crois qu'on n'a pas à changer. Avicenne a essayé de multiplier davantage les degrés de vie, mais ça reste fondamentalement le même. Donc, ayant analysé ces différents degrés de vie, ce qui me permet de mieux connaître ce qu'est l'âme, et de comprendre que l'âme humaine est à la fois ce qui informe le corps et ce qui est au-delà du corps. C'est là l'originalité de l'âme humaine. Elle informe le corps. Mon corps est animé par mon âme. C'est pour ça que le chiffre biologique reste un chiffre biologique et ne me fait pas connaître l'âme. Il me fait connaître qu'il y a un être nouveau, quelque chose ordonné à la naissance d'un petit qui serait un homme. Parce que le chiffre biologique de l'homme est différent du chiffre biologique de l'animal. Très différent. Donc, dès le point de départ, il y a une différence et une diversité. Ça, on verra ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment je puis voir cette diversité, cette unité. Ayant fait cette analyse, la seconde partie de la philosophie du vivant, c'est d'essayer de comprendre pour l'homme le développement génétique de l'homme, sa croissance, et quelles sont les étapes différentes de la formation du corps de l'homme. Voyez là, je suis. Donc, c'est le comment. Comment l'homme vit-il? Les différentes étapes. Le psychologue donne ses étapes. Le philosophe donne ses étapes. Et c'est intéressant d'essayer de les comprendre. Et le spirituel donne ses étapes. Alors, il faut mettre ça tous en parallèle. Ce serait très intéressant à faire. Au niveau science biologique, on a eu une fois ici un des professeurs de science biologique qui nous a donné ici, qui a dû ici, c'était l'ami d'une sœur, science biologique, le développement, la croissance de l'embryon. Il y a donc l'embryon. Puis la naissance. la naissance jusque la formation complète et totale du corps humain devient un être parfait, capable d'engendrer. C'est la perfection. Il faut que, si on voit du biologique, la capacité d'engendrer est le signe de la perfection. Puisque la procréation est le signe d'une vie végétative parfaite. Donc ça, c'est au niveau science biologique. Puis on a ensuite un haut plateau, jusqu'au moment où les cheveux commencent à tomber, n'est-ce pas ? C'est le premier signe que le haut plateau, on commence à perdre un tout petit peu quelque chose. Mais ça peut quand même durer, il y a des gens qui restent chauves, qui sont parfaits, n'est-ce pas ? Ça dépend. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a ensuite la mort. Et la mort, on le sait bien, est toujours présente, toujours. La corruptibilité du corps humain est toujours. Il y a un devenir, autrement dit, il y a une croissance. Il y a une croissance, un sommet à cette croissance. Et puis, il y a un haut plateau, la croissance qui continue. Et puis il y a des signes de chute, de désagrégation et la mort, séparation de l'âme et du corps. Mais pour le biologiste, il ne parle pas de l'âme, donc il parle de la mort biologique, le cœur qui cesse de battre. Et plus profondément, il n'y a plus d'irrigation du cerveau. Et s'il n'y a plus d'irrigation du cerveau, c'est parce que la conséquence du cœur qui bat est là. Progressivement. Vous voyez, le point de vue spirituel se prend encore du sang. C'est ça qui est intéressant.